Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
VIH, SIDA, qu'en est-il de l'accès aux antirétroviraux? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Plus de 120 000 personnes vivent avec le SIDA au Mali, un chiffre alarmant selon les acteurs de lutte contre le SIDA. À Paris, en début des années 80, le virus responsable du VIH a entraîné une hécatombe sanitaire en Afrique. Progressivement, des moyens de lutte sont apparus. Les patients peuvent désormais vivre avec le virus. Aujourd'hui, l'un des acteurs, Arcade Santé Plus, célèbre ses 30 ans de lutte contre la pandémie. Quels résultats reflètent cette lutte? Où en sommes-nous avec la recherche du vaccin? Un monde sans sida est-il possible? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités, Mme Sidibé Tenekane, coordinatrice régionale de Koulikoro du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH. Docteur Mamadou Cissé, directeur de la recherche communautaire à la direction générale de Arcade Santé Plus, et Mamadou Simaga, secrétaire exécutif régional du Haut Conseil national de lutte contre le SIDA du district de Bamako. À la présentation, je suis Mirana Kilomega, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Tout d'abord, on commence avec vous, Mamadou Simaga. Qu'est-ce que d'abord le VIH et le SIDA?
Merci bien, M. Simaga. Tout juste, permettez-moi de saluer vos auditeurs et auditrices.
De nos 85 radios et 3 télévisions partenaires.
Toutes nos félicitations par rapport à cette chaîne-là. Et mon bonjour à mes co-débatteurs. Monsieur le directeur du Arcade SIDA et Madame la présidente de Ramaplus. Et moi, c'est Amadou Simaga, ou Amadou Simaga. C'est bien,
Monsieur Amadou Simaga.
Effectivement, je suis le secrétaire exécutif régional de l'école des SIDA, district de Bamako. Les VIH, les SIDA, et c'est cette pandémie qu'on a connue ici au Mali, comme vous l'avez dit, et depuis les années 85, n'est-ce pas, qui a décimé pas mal de personnes ici. Un virus qui se transmet par des sangs contaminés, qui se transmet par des rapports sexuels non protégés et qui peut se transmettre par la voie la transmission mère-enfant. Voilà les voies. Et aujourd'hui, on peut dire que vraiment, on a parcouru des chemins. Beaucoup d'efforts ont été fournis. Dans le temps, c'était tout de suite synonyme de mort, en tout cas des personnes à la limite, à la traîne, aujourd'hui, avec les médicaments, avec l'engagement des uns et des autres, avec, n'est-ce pas, la réponse des personnes atteintes même du VIH, aujourd'hui, c'est un mal comme tout autre mal, c'est une maladie comme toute autre maladie, qu'on vit avec, on se soigne comme les diabètes, et l'hypertension. Voilà ce que je peux dire en entrée de jeu. Merci.
Aujourd'hui, quelle est la situation générale dans le pays?
À la date d'aujourd'hui, la prévalence du VIH-SIDA est estimée à 0,8%. On va dire que 0,8%, ce n'est pas trop. Ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Parce que rapporté aujourd'hui à la population générale du Mali, c'est à peu près plus de 120 000 personnes qui vivent avec le SIDA. Mais même si une seule personne vit avec le SIDA au Mali, on va continuer à se battre. On a comme objectif de l'éliminer à l'horizon 2030. Et justement, nous sommes avec tous nos partenaires par rapport à cela. C'est un objectif mondial auquel le Mali s'inscrit et avec l'apport de tout un chacun. Je crois que nous allons un jour léguer un Mali sans SIDA aux générations futures.
D'accord. Docteur Mamadou Cissé, ce chiffre, plus de 120 personnes vivent avec, 120 000 personnes vivent avec le SIDA. Ce virus est toujours présent. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette situation?
Qu'est-ce qui explique le fait que...
Le virus vit toujours?
Le virus vit toujours. Je crois que les raisons sont multiples. D'abord, vous savez que vivre avec le VIH, ce n'est pas une situation facile. Ceux qui vivent avec n'arrivent pas très souvent à rapprocher les centres de soins pour se traiter, parce que malheureusement, il y a encore trop de stigmatisation, trop de discrimination autour des personnes qui vivent avec le VIH. Donc ça explique en toi assez souvent le fait qu'on n'arrive pas, en tout cas encore, à éradiquer le virus, en tout cas là où on peut effectivement le trouver. On sait aujourd'hui où ça se trouve, mais sauf qu'il y a des populations qu'on va appeler des populations clés, des populations vulnérables, au sein desquelles l'accès ne se fait pas facilement. Ces populations ont de la peine à aller vers les centres de soins par peur d'être stigmatisées. Donc toutes ces raisons, entre autres, expliquent pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à éradiquer le virus. Vous savez, quand on parle d'incidence du virus, c'est-à-dire que la situation des nouvelles infections, on les trouve, oui, la prévalence, c'est-à-dire que le nombre de virus au sein de la population, au sein des populations dont je viens de parler tantôt, populations clés, populations vulnérables, c'est au sein de ces populations que la prévalence du VIH est la plus élevée. Donc quand nous ne disposons pas de moyens suffisants, en tout cas pour aller vers eux, et Dieu seul sait qu'on fournit pas mal d'efforts pour aller vers eux, mais force est de constater que les gens se sentent discriminés, marginalisés, donc ils ont peur. Donc on est obligé vraiment de les chercher très loin. Mais quand on se cache et qu'on ne veut pas aller vers les centres de soins, donc ça devient un peu compliqué. Donc c'est au sein de ces populations que le VIH va continuer encore à se propager.
Quand vous dites des populations clés, des populations vulnérables, concrètement, de quoi s'agit-il? Quelles sont ces populations clés?
C'est en fait des populations au sein desquelles le risque d'être infecté est très très élevé. Je prends par exemple les travailleurs de sexe. Voilà, ça peut être quelquefois les usagers de drogue. Voilà, ça peut être des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc toutes ces populations donc, sont des populations au sein desquelles, de par le mode de transmission assez élevé, de par leur pratique, fait que la prévalence du VIH est un peu plus élevée au sein de cette population.
En moyenne, combien de personnes par semaine ou par mois sont contaminées par ce virus?
Alors, je ne saurais pas le dire parce que c'est vrai, comme vous nous avez fait comprendre que on va parler plutôt de notre vécu. Moi, je rappelle, il y a à peu près une vingtaine d'années, quand j'étais encore coordinateur du CESAC de Bamako, nous dépistions environ une trentaine de personnes. Et sur ces 30 personnes, il faut dire qu'on avait presque les deux tiers qui étaient infectés par le VIH. Bon, c'est lié peut-être à la particularité du CESAC où on référait spécifiquement des gens sur lesquels on suspectait le VIH. Mmh. Ailleurs, quelle est la situation? Peut-être que M. Samake pourra... pourrait nous en dire un peu plus, en tout cas au niveau national, mais je ne dispose pas de ces chiffres.
D'accord. Avant de donner la parole à Mme Sidibé, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? En moyenne par jour, combien de personnes sont contaminées par ce virus?
Monsieur Mbaïga, comme il a dit, je saurais le dire avec précision, mais c'est des dizaines de personnes par jour. Et rapporter ça par an, ça fait beaucoup. Encore une fois, même s'il y a une seule contamination, nous devons continuer à se battre. C'est ça l'essentiel.
D'accord.
Voilà. C'est des dizaines et des dizaines de personnes qui sont contaminées par jour. Ça, c'est sans embâche, sans doute. Voilà. Voilà la situation. Merci.
Madame Sidibé, vous, votre réseau lutte pour freiner la chaîne de transmission. Comment avez-vous su que vous portez le virus?
Bon, moi, j'ai su que je porte le virus, c'était en 2005. Je suis tombée malade, je vis à Kulikoro. Je suis tombée malade à Kulikoro. On m'a référé au point G. Au point G, je suis restée là-bas jusqu'à un mois. On a fait toutes les analyses. On dit que je ne suis pas malade. Moi, je dis que je suis malade. Vous dites que je ne suis pas malade. Déjà, en ce moment, ils ont fait faire le test sans mon consentement et divulguer le résultat à mes proches. Je n'étais pas au courant. Il y avait mes parents qui disaient tous les jours, le VIH est comme ça, le VIH est comme ça. Moi, j'ai dit, ah, donc ma maladie là, c'est le VIH. C'est comme ça que j'ai su ma maladie.
Donc, quelle a été votre réaction tout de suite face à cette nouvelle situation qui vous semble embarrassante à l'époque?
Bon, ma réaction était que ma vie est finie, ma vie est terminée, je pleurais. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Parce que moi, je vivais en Côte d'Ivoire, je suis venue ici. C'était pour rentrer en France. J'étais avec mes tontons et ma tata. Donc, quand ils ont connu ma sortie sérologique, ce n'était pas facile. Donc, c'était la discrimination totale. Donc, vraiment, je vivais le temps-là, c'était pas facile, vraiment.
Une discrimination de votre...
Dans la famille même.
Dans la famille. Et les entourages?
Bon, les entourages, en ce moment, les entourages ne savaient pas d'abord. C'était dans la famille même.
Mais aujourd'hui, comment vous vous comportez?
Aujourd'hui, je suis fière de moi à cause d'Arcade Santé Plus. Bon, je suis rentrée dans l'association Nyanandjigi en 2005. Quand je suis rentrée dans l'association, grâce à l'accompagnement des docteurs et l'association même, donc 2007, j'ai été comme, on m'a pris comme CPS. Donc moi-même, je donnais des conseils aux gens qui venaient faire le dépistage. Donc aujourd'hui, vraiment, je remercie Dieu à cause d'Arca Santé et le Rama Plus.
Elle parlait tout de suite, elle dit qu'elle a été discriminée d'abord par sa famille, avant que son entourage ne soit au courant. Comment expliquez-vous que des personnes qui sont atteintes par une telle maladie virale puissent être confrontées à de telles discriminations?
Eh bien, monsieur Maïga, ça se comprend. La nature de cette maladie est telle que, en tout cas, la porte d'entrée a été comme si c'était une maladie honteuse. Et les personnes qui ont eu la malchance, entre guillemets, d'avoir été atteintes, vraiment, ont eu à broyer du noir dans ces pays-là. Et partout au monde, hein, ce n'est pas au Mali seulement. Et justement, parce qu'il y a marginalisation, il y a stigmatisation, que cette maladie, on a vraiment de la peine à l'éradiquer. Parce que face à ça, les gens se replient sur eux-mêmes. Il reste des réservoirs de transmission. Un, deux. Et avec ces replis, eh bien, les médicaments, comme ils l'ont dit, la prise en charge devient difficile. Et justement, on l'a toujours combattu, cette marginalisation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même cette année, les thèmes nationaux au Mali.
On va en parler tout de suite.
Voilà, donc on va aller vers les droits humains. Parce que c'est vraiment des droits.
Et ça veut dire qu'à l'époque, les gens n'ont pas compris la maladie.
Oui, partout au monde, ça a été, je l'ai dit, est considéré comme une maladie honteuse. Les sexes, etc., etc. Bon, quand cela ne tienne, mais quand même, il faut toujours accompagner une personne atteinte d'une quelconque maladie. Parce que les remèdes d'une maladie, c'est d'abord l'approche qu'on a vis-à-vis de son médecin, qu'on a l'approche vis-à-vis de ses parents, de ses proches, etc. Les milieux ambiants, c'est vraiment fondamental. Et quand on est pris en charge à ce niveau-là, quand on est compris, quand on est accompagné, ça c'est déjà un médicament. Avant les médicaments même, moi je pense. Et si on ne va pas vraiment se lasser à informer, à sensibiliser, à faire en sorte que vraiment les gens puissent laisser de côté là, cette marginalisation, cette stigmatisation. De toute façon, elles sont courageuses, les personnes vivant avec les VIH au Mali.
D'accord.
Des témoignages qui sont là, ça ne se transmet pas comme ça. Pas plus tard qu'avant-hier, on était à Ségou. Des plats préparés par des personnes vivant avec les VIH-SIDA, que toute l'administration de Ségou, nous aussi, on s'est transporté à Ségou, tout le monde a mangé ensemble, ça ne se transmet pas comme ça. Il n'y a aucune différence. Voilà.
Le mois de décembre est dédié d'ailleurs à la lutte contre le sida qui a été célébré le 2 décembre à Ségou sous le thème « Promouvoir les droits humains et contribuer à éliminer le sida ». Pourquoi le choix de ce thème?
Ouais, eh bien, on l'a dit, ça s'y est toujours. Il y a toujours des poches, des cas de marginalisation de cette population. Et dès l'instant que cela existe, on dit encore une fois, la lutte devient difficile, voire impossible à mener à bout. Et donc, il faut continuer l'effort dans ce sens-là. Et ce thème national est issu du thème mondial, aller vers les droits de l'homme, les droits humains, respecter les droits humains. Parce que partout au monde, c'est pas au Mali seulement, c'est le même cas. Les gens sont marginalisés. Il l'a dit, aujourd'hui, la prévalence totale, c'est 0,8%, mais à aller auprès des professionnels de sexe, mais c'est tout là, multiplié par 10, à aller auprès des hommes ayant du sexe avec d'autres hommes. Et il y en a dans ces pays, et bien le taux est très, très élevé. À aller auprès des, comment dirais-je, même d'un certain nombre de groupes comme des aides ménagères, etc. Vraiment, c'est élevé. Et donc, voilà des groupes auxquels il faut accorder, on a toujours accordé l'importance et notre attention, qu'il faut continuer à encadrer, il faut continuer à accompagner pour que nous puissions vraiment aller au bout de cette maladie-là. Parce que c'est à ce niveau-là où le bas blesse. D'accord. C'est là où il y a les réservoirs au vrai sens du terme, de transmission et de propagation du VIH.
D'accord. Docteur Cissé, madame m'a parlé tout à l'heure, elle disait qu'elle vit aujourd'hui grâce au soutien de Arcade Santé Plus. Comment se fait aujourd'hui la prise en charge au niveau de Arcade Santé Plus?
Ok, comme vous me dites aujourd'hui, j'ai presque envie de retourner 30 ans en arrière, parce que la prise en charge à Arcade n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé il y a 30 ans, comme on en avait parlé juste avant l'émission. Donc en 1994, plus exactement au mois de novembre, Arcade a vu le jour. Deux ans après, Arcade a créé son premier centre de prise en charge qui s'appelle le CESAC. Il existe d'ailleurs toujours, il est au centre commercial de Bamako. Et après, il y a eu la création d'autres sites, je ne vais pas les citer tous, c'est des appellations, en fait les noms qui étaient attribués à ces structures, c'était les USAC, les unités de soins, d'animation et de conseil. Donc on en a créé un peu partout au niveau des six régions, en tout cas avant la nouvelle répartition du pays, en 20 régions, donc on était représenté dans les six régions pratiquement. Et la particularité des USAC, c'était le fait de les intégrer directement dans les CCRF. Donc la vocation de Arcade, c'était vraiment d'accompagner l'État dans la lutte contre le VIH. Donc ce n'est pas, nous n'avions pas du tout l'ambition, en tout cas, de faire cavalier seul, d'ailleurs, dans un pays organisé, ça ne se passe pas comme ça. Donc on a accompagné l'État dans sa mission régalienne qui est de traiter les personnes qui vivent avec le VIH. Et au niveau du CESAC, d'ailleurs, où j'ai travaillé comme médecin d'appui au tout début, c'était dans les années 96. Après, j'ai dirigé la structure pendant une dizaine d'années, donc comme coordinateur. Et juste pour que vous ayez à peu près une idée sur le nombre de personnes que Arcade, à travers ses sites de prise en charge, il y en avait 15 au total. Donc nous suivions à peu près un peu plus de la moitié de la file active de l'époque. Voilà. Donc je crois qu'on tournait autour de 23 000 ou 24 000 personnes sous traitement, régulièrement suivies. Et Arcade, à travers ses 15 sites de prise en charge, donc suivait à peu près un peu plus de la moitié. On était, je crois, aux alentours de 51%. Ça, c'était jusqu'en fin 2020. Voilà. Début 2021, donc les choses ont un peu changé. Donc Arcade a cédé une partie de ses USAC à l'État, parce que la mission, ce n'était pas d'accompagner indéfiniment les USAC. Voilà, donc ces USAC ont été restitués à l'État. Donc elles sont toujours, elles existent toujours au niveau des centres de santé de référence. Voilà, donc parce qu'à partir de 2021, d'ailleurs, Arcade a changé de nom. Il s'appelle, en fait, c'était Arcade-Sida. Maintenant, c'est Arcade Santé Plus. Voilà, donc il y a de nouvelles missions donc, qui se sont rajoutées à celles dans lesquelles on était impliqués auparavant. Voilà, donc, et aujourd'hui, nous suivons à peu près 11 à 12% de la file active du pays. Dès l'instant où les USAC que nous avions ont été cédés, donc on ne peut plus continuer à avoir la même file active. L'idée, ce n'est pas d'avoir, comment dirais-je, de gros chiffres à gérer, parce que quand même c'est épuisant et ça demande quand même toute une logistique. Et cette logistique, il faut que quelqu'un, voilà, mettre la main à la poche, en tout cas, pour payer tout ça. Donc, voilà, pour des situations voilà, de ce genre, donc on ne pouvait pas continuer, en tout cas, à gérer, en tout cas, les USAC sous cette forme. Donc, les USAC ont été cédés à l'État. Ils sont aujourd'hui au niveau des CCRF. Donc, aujourd'hui, peut-être pour répondre à la question rapidement, enfin, sur les trois dernières années, de 2021 à 2023, on est à peu près à 6 000 nouvelles personnes mises sous ARV. Voilà.
D'accord. Alors, les acteurs de lutte se sont engagés à mettre fin à la pandémie d'ici 2030. Où en sommes-nous avec cet engagement?
Par rapport à cet engagement, vous savez, c'est une démarche, comment dirais-je, qui réunit quand même beaucoup de partenaires. Ce n'est pas la vocation c'est pas la seule vocation de Arcade. D'ailleurs, Arcade ne peut pas du tout. Donc, nous, on accompagne l'État, comme on l'a dit. Voilà. Donc, il faut maintenant ajouter toutes ces contributions. Peut-être qu'on pourra après en parler dans le détail, ce que nous faisons au quotidien, en tout cas, pour apporter notre touche à cet édifice donc, qui se fait depuis des années. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore loin de l'objectif qu'on s'est assigné? Je crois que M. Simaga disait tantôt qu'on est passé à 0,8%. Mais sauf que peut-être il n'a pas dit ou peut-être que la question n'a pas été posée s'il y a eu une diminution de cette prévalence sur ces 30 dernières années ou les 40 dernières années depuis que le VIH existe. Si, ça a diminué. Ça a diminué parce que juste avant que je ne découvre que la prévalence tourne aujourd'hui autour de 0,8%, on était, je crois, 1,3%, non ?
On est parti de 1,7%
voilà.
À 1,1%,
voilà.
À 1,0%.
Donc, la prévalence est en train de baisser, même si c'est vrai, il disait, et je le suis tout à fait d'accord avec lui, qu'une personne infectée, ça fait toujours une personne de trop. Mais quand on regarde quand même la prévalence, on voit que ça, c'est en train de baisser. Donc ça, c'est grâce à toutes les initiatives de l'État malien par rapport à la lutte contre le VIH, par rapport à ses partenaires, que ce soit communautaire ou religieuse ou confessionnel d'une manière générale. Je pense que toutes ces contributions font qu'aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une prévalence qui est en deçà de 1%. Donc ça veut dire qu'il y a de la sensibilisation qui est en train d'être faite, qui n'a pas baissé. Et je crois que Mme Sidibé, ici présente, œuvre énormément, en tout cas dans ce domaine. Et on a su dès le départ, ça c'est d'ailleurs l'approche que Arcade fait aujourd'hui de la lutte contre le VIH, c'est faire la lutte avec les acteurs touchés et pour les acteurs touchés.
Alors, j'allais poser même la question, quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour accompagner cet engagement de mettre fin à la pandémie d'ici 2030 ? Puisque nous sommes à l'horizon 2030.
En fait, tout commence déjà par la sensibilisation. Donc, la sensibilisation va favoriser, en tout cas, toutes les actions qu'on fait par rapport à la prévention, parce qu'il faut faire en sorte que les gens soient informés de comment le VIH est transmis. M. Sigma l'a dit quand on lui a donné la parole au tout début de cette émission. Voilà, donc malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas comment le VIH se transmet. Et je crois que ça explique tantôt pourquoi des personnes, dans l'ignorance, se mettent à détester ceux qui l'ont, en ignorant totalement comment on le contracte. Voilà, donc cette sensibilisation a un poids énorme, en tout cas par rapport aux prémices même de la prévention, parce qu'il faut d'abord savoir comment on contracte le virus, et ensuite, dans la sensibilisation, dire aux gens comment on peut l'éviter. Hein. Donc, les acteurs sur le terrain aujourd'hui, donc qu'on soit conseiller psychosocial, qu'on soit animateur, leur rôle aujourd'hui, avec toutes les structures impliquées, donc c'est d'aller sur le terrain. Par exemple, sur ces trois dernières années, il y a plus de 8000 animateurs qui ont été mobilisés par Arcade à travers ses sous-bénéficiaires pour aller pratiquement un peu partout, selon les endroits où nous intervenons, pour faire de la sensibilisation, afin que les gens sachent ce qu'il y a. Demander aux gens de se dépister pour savoir par rapport aux prises de risque qu'ils ont eues, s'ils sont infectés ou pas, et proposer un traitement le plus tôt possible. Aujourd'hui, on est dans cette dynamique dès l'instant où tu découvres ton VIH. L'idée, c'est vraiment de commencer un traitement dans la semaine qui suit la découverte de l'infection par le VIH. Et ça ne peut se faire que si on est dans la sensibilisation, on est dans la mobilisation en tout cas, au sein de la communauté, en tout cas, pour que les gens prennent conscience de l'existence de cette infection. Voilà.
Amadou Simega, quelles sont les actions que le Haut Conseil mène au quotidien auprès des personnes vivant avec le VIH?
Merci bien. À prime abord, vous savez, c'est eux les acteurs.
Quel est le rôle que joue le Haut Conseil?
Je viens. Nous sommes l'organe de coordination, de facilitation et d'appui conseil et de veille sur l'application de la politique nationale en matière de lutte contre le sida. Nous, c'est les faire.
Quelle est la politique qui a été mise en place?
Justement, depuis 2004, il y a eu une déclaration de politique de lutte contre le VIH-SIDA qui a été déclinée à travers un certain nombre de décrets, à travers un certain nombre de programmes, des projets qui ont vu les jours. Vous savez, le secrétaire exécutif, le Haut Conseil, comme je l'ai dit, c'est l'organe d'appui, de coordination, de conseil, de veille et par rapport à des multiples acteurs sur le terrain. La lutte se veut multisectorielle, il l'a dit. C'est à chacun selon ses capacités. Tout et chacun est important. Même les gens prient individuellement. chacun doit apporter sa part de contribution à la lutte contre cette pandémie-là, à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale, à l'échelle communautaire. Effectivement, il y a ce qu'on appelle des associatifs, des communautaires, des associations communautaires qui sont en train de se buter à lutter, qui sont en train de lutter à l'image d'Arcane Santé Plus, à l'image de Réma Plus et d'autres, j'en passe. Chacun selon ses cibles, parce que c'est en termes de cibles. En tant que structure, seul, on ne peut pas tout faire face à la panoplie des problèmes. Mais donc, on choisit un pan auquel on s'attaque. Arcane Sida s'attaque à un certain nombre, prend en charge un certain nombre de cibles pour aller à l'élimination du Sida. Les hommes ayant du sexe avec d'autres hommes, je crois, les jeunes qui se droguent et qui se contaminent, entre autres, voilà des cibles de Arcane Sida. L'élément plus, en tant qu'association aussi, et s'occupe de l'information, de la sensibilisation et des témoignages. Les secrétaires exécutifs, et en tant que structure de coordination au niveau national, décentralisée et déconcentrée au niveau des régions, vraiment, c'est vraiment la coordination, c'est faire en sorte que vraiment nous puissions aller dans les mêmes sens pour vraiment mettre hors d'état de nuire les SIDA dans notre pays.
Si je comprends bien, si quelqu'un qui a contracté le virus et qui s'approche du Haut Conseil national de lutte contre le SIDA sera automatiquement transféré soit dans une organisation non gouvernementale comme Arcane Santé Plus.
Le Haut Conseil, le secteur exécutif n'est pas une structure de prise en charge. Je dis, c'est en termes d'un sens de coordination. Les acteurs terrain sont là. C'est les associations, il y a même les services, les USAC et autres, les CCRF. Et même dans un certain nombre de CESCOM, il y a aujourd'hui la prise en charge des VIH-SIDA. C'est vraiment important, au niveau même des CESCOM. Donc, il y a beaucoup d'intervenants, quoi, une multitude. D'ailleurs, à la défaveur de l'amaigrissement des financements aujourd'hui, les associations et autres, c'est compte au bout du doigt parce que de plus en plus les financements se raréfient. Sinon, il y a une quinzaine d'années, vraiment, c'était tout un chacun, une multitude de centaines d'associations et d'ONG qui étaient créées, vraiment, qui sont en train de lutter contre le SIDA. Et donc, les acteurs, nous facilitons, nous appuyons, nous coordonnons, nous veillons sur l'application de la politique. Voilà notre rôle.
D'accord. Voilà. Madame Sidibé, quelles sont les difficultés auxquelles aujourd'hui vous faites face par rapport à la prise en charge de vos médicaments antirétroviraux?
Bon, la difficulté que nous faire face, il y a accès. Il y a des gens qui sont loin pour venir prendre leurs médicaments. Nous, on fait la dispensation communautaire. Notre rôle dans la société, c'est aller donner les médicaments. Nous faisons la dispensation communautaire, c'est-à-dire aller donner les médicaments au PVVH dans leur lieu convenable dans la communauté.
PVVH, c'est-à-dire les personnes vivant avec le VIH.
Après ça, on fait l'index testing. L'index testing, ça, c'est aller dépister les partenaires des PVVH et les enfants des PVVH dans la communauté. Bon. Il y a beaucoup d'autres.
Est-ce que l'accès aux antirétroviraux est facile aujourd'hui?
Si, l'accès aux antirétroviraux est facile. Nous-mêmes, on a l'accès. C'est pour cela que j'ai dit que nous, on donne les médicaments à la communauté, au PVVH dans la communauté.
Les personnes vivant avec le VIH prennent quotidiennement leurs médicaments?
Si, mais il y a des pertes de vie. On fait la recherche aussi des pertes de vie. Les pertes de vie à cause de la discrimination et de la stigmatisation. Donc nous, on s'en va rechercher ces pertes de vie pour les réintégrer aussi.
Mais est-ce qu'il arrive qu'il y a des cas d'abandon complètement de prise en charge dans vos associations? Que des personnes abandonnent de prendre des médicaments?
Si, il y en a. Il y a des personnes qui abandonnent complètement.
Et quelles en sont les raisons?
Bon, il y a beaucoup de raisons. D'autres disent que le sida n'est pas vrai. Et les SIDA n'existent même pas. Tu vas beau faire.
Parce qu'ils vivent grâce avec la prise, ils vivent grâce à la prise en charge des antirétroviraux. Pensent que le SIDA n'existe plus ou le SIDA n'est plus une réalité.
Bon, c'est pas ça même. Depuis le début, il y a des gens. Même si tu les dépistes, tu dis que tu es séropositif, tu dois prendre les médicaments. Ils vont dire que c'est pas vrai. Moi, je suis pas positive. Je suis venue pour d'autres causes, je ne suis pas venue pour faire dépister. Donc, il y a beaucoup de refus même. Mais les associations mises en place des gens pour les convaincre de venir faire leur traitement. Sinon, il y a des refus.
D'accord. Docteur Cissé, de plus en plus, les situations d'échec thérapeutique génèrent des problèmes de gestion. Qu'est-ce qui explique cela?
Peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais peut-être juste revenir sur les questions qui avaient été posées auparavant et qui pourraient peut-être même aider à comprendre la question qui vient d'être posée. Oui. Vous demandiez les raisons de l'abandon.
Tout à fait.
C'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites pour voir les facteurs prédictifs par rapport à l'abandon. Et au tout début de mon intervention, j'ai cité la stigmatisation, la marginalisation. C'est vraiment des causes majeures qui font que les gens abandonnent. Imaginez quelqu'un qui vient au centre, on lui dit qu'il est infecté par le VIH. Il sait tout de suite ce qui va se passer. Dans sa famille, il ne va pas dire qu'il est infecté. Il ne va jamais sortir de chez lui pour se rendre sur un site de prise en charge parce qu'il y a certainement des gens ou bien il va penser qu'on va le suivre, en tout cas dans sa démarche, pour savoir ce qu'il a. Parce qu'en sortant, il va certainement dire qu'il est infecté par le VIH. En fait, il va au centre de soins et n'ayant pas partagé le pourquoi de sa maladie, donc les gens vont essayer probablement de le suivre. Donc tous ces facteurs vont faire qu'à un moment donné, le sujet va abandonner d'aller au niveau du site de prise en charge. Donc ça, c'est vraiment les facteurs prédictifs par rapport à l'abandon. Par rapport, c'est vrai, à nos interventions en termes de lutte contre le VIH, c'est vrai que j'ai mis l'accent dans un premier temps sur la toute première chose qui est faite, la sensibilisation, mais il y a aussi le traitement. Et je le disais tantôt, il fut un temps, c'était en fin 2020, donc nous suivions à peu près la moitié des personnes qui avaient été mises sous ARV. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est vrai que je voulais juste rajouter, pour en revenir maintenant à votre question, l'échec thérapeutique. C'est vrai que l'échec thérapeutique, il s'instaure dès l'instant où il y a effectivement des difficultés dans la prise du traitement. Ce traitement, c'est un traitement à vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes le savent. Donc, un traitement à vie a besoin d'être accompagné. Et quand cet accompagnement ne se fait pas comme il faut à cause des abandons dont nous parlions tantôt, on va effectivement retrouver ces gens un an ou deux ans après l'abandon avec des taux de charge virale très, très élevés parce que le traitement n'a pas été pris pendant cette période. Et c'est vraiment le grand dilemme auquel on est confronté aujourd'hui. Avoir une infection par laquelle un traitement est donné et le traitement doit être pris à vie, et avoir des difficultés par rapport au taux de rétention de ces personnes, parce que ce taux de rétention, selon les sites, il est quelquefois de 50%. Imaginez, en début d'année, vous avez à peu près 100 personnes suivies sous ARV, à la fin de l'année, vous en avez moins de 50. Donc, et pourtant, ces 100 personnes auraient dû être maintenues sous le traitement pendant tout ce suivi. Bon, c'est pas comme ça que ça se fait dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, malheureusement, beaucoup de gens abandonnent le traitement. Et j'ai essayé de citer quelques causes. Et ces abandons font que les gens vont se retrouver en échec thérapeutique et seront obligés de tout commencer. Mais au-delà de tout commencer, il y a le risque qu'on en meure de cet échec thérapeutique. Il y a aussi le risque que les médicaments dont nous disposons aujourd'hui n'arrivent plus à traiter l'infection comme il faut. Parce que l'échec, c'est aussi ça. Avoir un arsenal thérapeutique qui n'est plus efficace sur la souche virale que la personne présente parce que la personne est en situation d'échec thérapeutique. L'échec, ce n'est pas juste parce que j'arrête de prendre le traitement, mais même si ce même traitement est en train d'être pris, il ne va plus être efficace comme il l'a été au tout début.
D'accord.
À cause de l'abandon et parce qu'il y a des mutations qui vont venir, donc des changements dans le génome du virus qui fait que le virus ne sera plus sensible au traitement.
Vous voulez dire quelque chose?
Oui, et en soi, c'est un problème. Il l'a dit. C'est-à-dire, à prime abord, on met la personne sur une première ligne. Et en cas d'échec, la personne est mise sur une deuxième ligne et qui coûte plus cher. Et entre parenthèses, les médicaments là sont gratuits. Pour les personnes
les
qui sont gratuits, ils sont achetés par l'État et ses partenaires et mis à la disposition de ces personnes-là à vie. Et donc, vraiment, l'idéal est que vraiment les gens
mais
soient...
En dessous des antirétroviraux, il y a également des médicaments qui sont payants, n'est-ce pas?
Bon, ça peut arriver, hein, par rapport à des maladies opportunistes, même de certains médicaments opportunistes contre les maladies opportunistes sont payés par l'État et ses partenaires et mis à disposition. Mais il peut arriver que, eh bien, dans la vie courante, que ces personnes fassent aussi un certain nombre d'autres maladies pour lesquelles la prise en charge n'est pas gratuite. Ça peut arriver. En tout cas, l'État fait de son mieux pour rendre les médicaments gratuits et les mettre à disposition les plus près possible, vraiment. Et ça suit un peu la première sanitaire, c'est-à-dire du niveau hôpitalier jusqu'au niveau CESCOM. Et même au niveau communautaire, voilà, cette chaîne de distribution qui est organisée à travers les associatifs et autres. Et donc, je disais, c'est important, vous l'avez dit, l'échec thérapeutique, ça a un coût. Parce que quand on passe d'une ligne à une autre, ça a vraiment un coût. La deuxième ligne est plus chère que la première ligne. Et la troisième ligne, je parle sous le contrôle du médecin, est encore plus chère que vraiment cette deuxième ligne-là. Donc vraiment, c'est un peu ça. Et donc notre leader, c'est de rester au niveau de sa ligne, en tout cas en étant observant, c'est-à-dire en prenant bien ses médicaments et en respectant vraiment les consignes données par les traitants.
Madame Sidibé, est-ce qu'il arrive souvent que vous achetez certaines ordonnances qui accompagnent les médicaments antirétroviraux?
Si. Ça arrive souvent. Bon,
est-ce que c'est des médicaments qui coûtent cher?
C'est des médicaments qui coûtent cher. Des médicaments qui coûtent cher. Quand on dit que le médicament est gratuit, je pense que c'est les you, les coteries. Il y a des médicaments qui sont gratuits, mais d'autres ne sont pas gratuits.
Les médicaments anti-rétroviraux?
Non, les rétroviraux, c'est les you.
Ok.
Les médicaments qui traitent les ISC sont gratuits. Les coteries sont gratuits. Bon, actuellement, je ne sais pas trop, mais nous, on paye des médicaments.
Juste peut-être pour venir à la rescousse de Mme Sidibé, il faut que vous sachiez, comme M. Simara l'a bien dit, le traitement par rapport au VIH, il est gratuit. Quand on parle de traitement, c'est vrai, ça prend en compte ce qu'elle tentait de dire tantôt. Le traitement des infections opportunistes. En fait, c'est des infections que nous connaissions bien avant l'avènement du VIH, mais qui viennent beaucoup plus souvent chez quelqu'un qui est infecté et dont la survenue est liée à l'affaiblissement de son système immunitaire. Toutes ces infections-là, on les a aujourd'hui répertoriées, on sait en termes de pourcentage comment ils surviennent, en tout cas sur les personnes vivant avec le VIH. Et tous ces médicaments sont aujourd'hui achetés par l'État et par les partenaires. Donc ces médicaments-là rentrent effectivement dans la gestion des infections opportunistes. Ensuite, il y a les ARV eux-mêmes, donc, qui est le B.A.B.A. même du traitement, donc, qui existe aussi et qui sont rendus disponibles de la même manière. Comme on l'a dit tantôt, l'infection par le VIH, c'est une infection à vie. Moi, je connais aujourd'hui des gens, ça fait presque une vingtaine d'années que je les connais. Donc imaginez, en 20 ans de suivi, ils vont quelquefois se présenter avec d'autres infections qui n'ont rien à voir avec le VIH. Ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension, pour lesquelles on ne va pas effectivement avoir de médicaments pour eux au niveau des sites de prise en charge. Pour ces infections, donc on appelle des comorbidités, donc ils vont malheureusement quelquefois devoir les acheter. Voilà.
D'accord.
C'est important. En quelques mots. C'est-à-dire, encore une fois, les antirétroviraux sont bel et bien gratuits au Mali. Et ils sont dispensés à suffisance, en tout cas à souhait, vraiment malgré les difficultés que traversent les pays, avec l'appui, disons, avec l'engagement de l'État et ses partenaires. Un, deux, même les médicaments contre les maladies opportunistes et autres là. Même là aussi, l'effort est fait. Pas plus tard que quelques mois, vraiment, le secrétaire exécutif sur le budget d'État a fourni toutes les régions du Mali en médicaments contre ces maladies opportunistes-là. Donc, vraiment, nous faisons de notre mieux et nous faisons tout ce qui est possible vraiment pour sauvegarder la vie des personnes vivant avec les vers. Et de plus en plus, ils vivent longtemps comme tous les autres.
Au niveau national, aujourd'hui, quelles sont les dispositions mises en place concernant la recherche du vaccin?
Bon, il y a ce qu'on appelle au niveau d'un certain nombre de... Il y a les CEREFO qui font des études. Il y a un certain nombre de professeurs des universitaires qui sont en train de faire des recherches. Mais vous savez, ce virus-là, il est tellement malin, il est tellement difficile à maîtriser qu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, à ma connaissance, vraiment, il n'y a pas de vaccin en tant que tel. Et ça, ce n'est pas...
Mais on s'engage quand même à l'éliminer d'ici l'horizon 2030 et nous nous approchons de l'horizon 2030 puisque nous sommes en 2024, vers la fin de 2024. Il ne reste que 5 ans pour cet engagement pris par les autorités et par les acteurs...
Par le monde, on va dire.
Par le monde, oui. Pour éliminer.
Oui.
Est-ce que... aujourd'hui, on peut dire que ce virus pourrait être éliminé d'ici l'horizon 2030 au regard de ce que vous dites.
C'est la raison de notre combat et c'est votre raison aujourd'hui parce que vous contribuez comme cela à l'atteinte de cet objectif final-là. Et je dis encore une fois, cet engagement n'est pas que malien, il est mondial. Et nous sommes dans les concerts des nations, nous faisons ce que nous devons faire par rapport à la population malienne. Je dis encore une fois, les recherches continuent. Même au Mali et ailleurs, avec des moyens beaucoup plus importants. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin en tant que tel. Vivement un vaccin. Oui. Mais d'ici là, ce que nous pouvons faire, ça, c'est de faire en sorte que vraiment les nouvelles actions et infections puissent être maîtrisées, stoppées. Nous puissions faire en sorte que les femmes qui donnent naissance à des enfants soient des enfants sains, même si la femme elle est séropositive. Aujourd'hui, la science est tellement développée que vraiment, ça, ce n'est plus un problème. Nous sommes en train de faire en sorte que vraiment, les jeunes qui se droguent, vraiment qu'ils soient accompagnés pour faire en sorte qu'ils ne se contaminent pas, etc., etc.
D'accord.
Et au même moment, parallèlement, les recherches scientifiques se poursuivent.
D'accord.
Et que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs. Merci.
Docteur Cissé, comment y arriver à mettre fin à la pandémie quand on sait que la lutte contre le VIH est compliquée par le fait que cette pandémie cache une grande diversité de situations?
Je pense qu'on avait commencé déjà à trouver des ébauches par rapport à quels moyens on va se donner, en tout cas, pour aller vers cette élimination. C'est vrai que vous parliez du vaccin. Je ne dis pas que le vaccin ne va pas jouer peut-être un rôle déterminant. Mais aujourd'hui, ce matin, en tout cas, quand on m'a parlé de cette mission, on a fait intervenir un de nos partenaires sur les actualités thérapeutiques. Il fut un temps, le vaccin, on en parlait un peu, mais comme il l'a bien dit, son développement dans le contexte du VIH est un peu compliqué. Parce que le VIH... comment dirais-je, ne garde pas la même apparence à chaque fois. Donc, il est en perpétuelle mutation, qui fait que c'est un peu compliqué dans la recherche vaccinale, en tout cas, de lui trouver quelque chose pour l'empêcher de se multiplier. Aujourd'hui, les traitements les plus puissants vont faire en sorte qu'on va, sur un temps assez long, rendre les personnes indétectables par rapport au VIH. Et dès l'instant où ils sont indétectables, ils ne vont pas transmettre le VIH. Ça, c'est très important. Ouais. Quelqu'un qui est traité correctement ne transmet pas le VIH. Il parlait de la transmission mère-enfant. C'est dans la même logique aujourd'hui que nous faisons en sorte que des enfants qui naissent de mères infectées ne sont pas infectés parce que le traitement a été donné en amont pour traiter les mamans et que les enfants ne soient pas infectés. Donc toutes ces stratégies, toutes ces démarches vont faire qu'à un moment donné, on va effectivement aller vers l'élimination du VIH. C'est encore un long chemin, je crois qu'on est à 6 ans de l'échéance. Voilà, il va falloir encore bien cravacher avant d'aller vers cet objectif. Mais on y croit et on continue à se battre.
Donc on peut dire que la lutte contre le sida est pour l'instant un échec?
Non. On ne va pas prendre comme un échec. Vous savez combien de gens on a pu sauver d'une mort certaine lorsqu'on les a informés de leur infection. Ils n'auraient pas les traitements dont nous disposons aujourd'hui, ils seraient tous morts.
D'accord.
Donc on ne peut pas, durant ces 40 dernières années, ça fait quand même 40 ans que le VIH existe.
On va donner 30 secondes à madame, vous allez terminer. Madame, est-ce que vous avez l'impression qu'on pourra éliminer le sida d'ici l'horizon 2030?
Oui, j'ai l'impression qu'on va éliminer le sida d'ici l'horizon 2030. Parce que ce que Dr Cissé a dit tout de suite là, tu prends tes médicaments, chaque 6 mois, tu viens faire la charge virale. Si la charge virale est indétectable, tu ne peux plus transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Donc avec ça, on va l'éliminer le VIH.
Vous avez demandé la parole.
Et j'ai demandé à M. Maïga, c'est plutôt une réussite, la lutte contre le VIH-Sida. Mm-hmm. C'était l'hécatombe il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, on en meurt, mais très peu. De toutes les façons, VIH ou pas, on meurt tout à chacun jour, d'une manière ou d'une autre. Mais les efforts sont tels. Aujourd'hui, ces personnes qui vivent avec le VIH-Sida sont en un bon point, M. Maïga.
D'accord.
Et donc, vraiment, effectivement, il y a des chemins à parcourir, mais les plus difficiles a été fait. C'est ce que moi je pense.
D'accord. Merci beaucoup. Ainsi se referme cette édition qui parle du VIH-Sida. Qu'en est-il de l'accès aux antirétroviraux? Et nous étions avec Madame Sidibé Tenekane, coordinatrice régionale de Koulikoro du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH, Herma+. Docteur Mamadou Cissé, directeur de la recherche communautaire à la direction générale de Arcade Santé+. Et Amadou Simaga, secrétaire exécutif et régional du Haut Conseil national de lutte contre le sida du district de Bamako. À la présentation, c'était Imran Akil Omega. Merci d'avoir suivi ce débat. À demain pour un autre débat.